vient d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Le Conseil des ministres d'hier 4 janvier 2024 a adopté le budget 2024 de l'État du Niger. Il est arrêté à 2653 milliards de francs CFA. Autre décision du Conseil des ministres, c'est la dissolution du Conseil communal de Gaya. Cela fait suite aux conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de l'administration territoriale. Le magazine du jour nous amène à la découverte du canton de Dargol, la région de Tillabéri, avec un notable de la chaufferie. Le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchiani, a signé hier 4 janvier 2024 l'ordonnance portant budget 2024 de l'État du Niger, arrêté à 2653 milliards de francs CFA, rapporte un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le budget 2024 est bâti autour des objectifs macroéconomiques visés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et des orientations édictées dans le cadre de l'élaboration du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Toujours en bref, le Conseil des ministres d'hier 4 janvier a adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements à la société Arke Industries Niger Ari Niger pour son activité de production de sucre brun à Djundjou, région de Dosso. C'est une société anonyme avec un capital de 2 milliards de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. Elle a pour objet, entre autres, la production du sucre, de jus de canne à sucre et d'aliments bétaillants. Le Conseil des ministres a annoncé la dissolution du Conseil communal de Gaya conformément aux conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de l'administration territoriale. Le communiqué officiel expose les dysfonctionnements graves dans la gestion de certaines collectivités territoriales, en particulier celle de Gaya. Écoutons Moussa Ibra, acteur communautaire à Gaya, au micro de Fadel Alou.
C'est dommage qu'on en arrive à une telle extrémité, mais c'était prévisible parce que dès l'élection du maire, il y avait déjà des tensions à ce niveau-là. Et c'est ces tensions-là qui ont continué, qui ont émaillé la vie de la commune. Point bon que le conseil n'est pas unifié, uniforme et solidaire des décisions. Et il y a eu des tensions permanentes qui ont plombé le développement de la commune. Ça devait aboutir sur ce qui est arrivé. C'est qu'elle n'arrive même pas à faire aboutir son budget. Au point que le représentant de l'État, qui est le préfet, se substitue à cette institution pour lui imposer un budget. Il y a quelque chose d'extrêmement grave à ce niveau. Et c'est ce qui est arrivé à la commune de Gaya. Le conseil aurait pu éviter ça. Donc pour moi, vraiment, il y a une refondation totale de l'ensemble du système. Le code, il dit qu'il faut nommer un administrateur délégué par décret. Il faut nommer des conseillers par décret.
Hier jeudi 4 janvier a eu lieu un débat à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette activité a reçu Boubacar Daoude Diallo, doyen de la faculté des sciences humaines, comme invité. Cette conférence a pour thème le rôle de la culture dans la lutte de libération nationale. Hassan Souley Kadri, secrétaire général du comité exécutif de l'UNUN, est au micro de Amadou Haroune Jibo Ismaël.
La culture, les anciens l'ont dit, à savoir les Thomas Sankara, ils ont beaucoup insisté sur le fait que nous acceptions notre histoire dans ses aspects positifs tout comme dans ses aspects négatifs. Et tous les peuples qui ont su se développer dans le temps, ce sont les peuples qui ont accepté leur culture, qui les ont valorisés et qui les ont exploités. Je prends l'exemple de la Chine. Quand vous regardez le caractère uniforme de la culture chinoise, vous vous rendez finalement compte qu'on a programmé le chinois déjà à s'accepter en tant que personne, ce qui de fait n'est pas notre cas. Cette conférence entre dans le cadre de la sensibilisation des esprits, de la décolonisation des mentalités, parce que nous avons notre mentalité, notre esprit a été colonisé, de sorte qu'on nous fait comprendre, par exemple, tout ce qui ne vient pas, par exemple, de la France, n'est pas du tout juste. Celui qui parle bien le français, c'est celui qui est vu comme étant le gros et grand intellectuel. Celui qui sait manier les mots et les concepts, en réalité, c'est lui qui est vu sur la scène. Or, dans les faits, cela n'a fait en réalité qu'à nous aliéner et à nous faire perdre confiance en nous-mêmes.
La suite de ce journal, plusieurs tonnes de produits maraîchers seront acheminées à Niamey dans le cadre de la foire annuelle des maraîchers d'Agadez qui se déroulera à partir du 10 janvier 2024. Ahmed Yahya est le président du comité d'organisation de cette foire. Il évoque les difficultés auxquelles font face les maraîchers dans leur exposition. Il est au micro de Moussa Mamman.
Nous avons un certain tonnage de 2000 cartons d'agrumes qui fait dans le 80 tonnes. Nous avons 120 tonnes d'oignons, 100 tonnes de pommes de terre. Nous avons 3000 plants, les épices, l'ail, beaucoup de produits. Et ça, c'est un premier voyage pour exposer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les agrumes, c'est des produits qui se décomposent. C'est pourquoi nous avons vraiment pris l'habitude de partir avec un tonnage moins important pour vraiment exposer. Et nous avons un problème sérieux pour l'exposition de nos produits. Chaque année, nous exposons au niveau des artères de Niamey et nous avons des problèmes avec les différentes communes. Et cette année, nous allons les lancer au niveau de la place Tmo, c'est qu'il nous faut un terrain. Nous sommes tout le temps chassés, disons, par nos propres autorités sur les artères de Niamey. C'est pourquoi nous demandons cette année avoir un endroit où les producteurs d'Agadez seront à l'aise pour exposer leurs produits. Ce n'est pas juste seulement la foire. Nous avons sur toute l'année la production, mais il nous faut un endroit sûr où nous allons exposer nos produits.
À Difa, les transporteurs de la région ont projeté une grève le lundi dernier. Une rencontre avec les autorités a eu lieu le mardi avec le groupe des syndicats de transport. Brem Maman, secrétaire général de la préfecture de Difa, explique la rencontre au micro de Guidi Abdrahman.
Nous avons tenu une réunion à la mairie de Difa. Donc, par rapport à un préavis de grève que le syndicat des transporteurs ont déposé. Donc, vous savez, dans toute chose, c'est le dialogue, c'est le consensus qui prime. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait tenu la réunion avec tous les acteurs, la mairie, les transporteurs et la préfecture. Et Dieu merci, nous avons échangé et nous avons trouvé le consensus et nous avons signé un protocole d'accord pour mettre fin à cette grève préalablement déposée par le syndicat des transporteurs. Ils se sont entendus sur un certain nombre de points. Les deux parties tombaient tous d'accord et puis on a signé déjà un protocole d'accord et mis en application. Et déjà, ils ont informé leur hiérarchie. La mairie aussi nous a envoyé une copie du protocole d'accord. Donc je crois que c'est fini pour cette affaire de grève-là.
Lancement hier au centre hospitalier régional de Difa de la campagne nationale gratuite de chirurgie de la cataracte. La campagne est organisée par le ministère de la Santé sur le financement d'une ONG turque dénommée Hassan. Au cours de cette campagne, 1000 patients seront opérés, dont 400 à Difa, explique Dr Almou Ibrahim. Il est le coordinateur national adjoint de l'ONG. Il est interrogé par Guy Diabdrahman.
L'objectif est d'opérer 1000 malades. Nous avons déjà opéré plus de 650 malades. Ici, c'est 400 malades qui seront opérés aussi. Le nombre de jours, c'est en fonction du nombre de malades qui sont arrivés. Et pratiquement maintenant, comme vous voyez l'engouement, la cour est pleine de malades. Donc, on espère en 3-4 jours finir. Mon appel à l'endroit de la population de Difa, c'est de se faire consulter, de venir vers le service d'ophtalmologie du centre hospitalier régional de Difa. Il y a des personnel qualifié qui peut prendre en charge leurs problèmes oculaires.
Parlons éducation. À Tessawa, plus de 200 enseignants du secondaire de la ville et collèges ruraux des différentes matières ont commencé hier une formation de renforcement de capacité dénommée unité pédagogique. L'objectif de cette formation est d'améliorer la connaissance des enseignants sur tous les niveaux. Maman Sane Ali, conseiller pédagogique à l'inspection, explique au micro d'Ilia Moumouni.
Nous les regroupons par matière. Exemple, ceux qui font l'anglais sont à part, tout comme histoire, géographie, mathématiques, physique, chimie et autres. Et chaque groupement par matière vont essayer de partager des connaissances. Et au cas où certains d'entre eux rencontreraient des difficultés, on saura les appuyer, surtout les tout nouveaux. Donc vous voyez, en cas de problème ensemble, ils sauront les détecter. Et les points aussi qui ont besoin d'amélioration. Donc on peut même revenir sur les plans. Le travail durera 3 jours. Donc il se peut qu'un enseignant se retrouve dans une autre classe pour essayer de la remettre à niveau. Cela est un grand soutien entre les enseignants en partageant les connaissances. Et peut-être en général, dans une discipline, le professeur il est le seul dans son établissement. En cas de faute, il ne peut pas la détecter.
Dans le village de Tchamadar Salam, département de Falmaï, les populations de ce village font le commerce des feuilles de palme. Les commerçants de Baldayara achètent pour la confection des nattes, des chapeaux et autres articles. Yaye Hassan, un commerçant de ces feuilles de palme du village de Tchama, explique au micro de Oumou Omaru.
Les feuilles de palme nous préviennent des boboïs. Nous les achetons pour les revendre aux commerçants de Baléara, qui les chargent dans leur camion. D'ici cet après-midi, les véhicules seront là. Toutes ces feuilles de palme que tu vois ici sont cueillies par des femmes, qui viennent les vendre ici en détail. Ce sont des tas de 200 francs que tu vois ici. Les gens de Baléara qui achètent en gros font leur commande en envoyant leur argent. Nous les achetons pour eux, à raison de 1600 francs la botte. Vraiment, nous ne gagnons pas grand-chose dans cette activité. C'est nous qui formons les bottes à 150 francs l'unité. Mais en général, les propriétaires ne nous donnent que 1000 francs ou 1500 francs pour le travail effectué. Nous le faisons juste par manque de travail. Ces feuilles de palmier permettent de tisser des nattes, des chapeaux, des cordes, des éventails et bien d'autres.
À présent, le magazine de ce journal. La commune rurale de Dargol est située dans le département de Gotey, région de Tillabéri. Composée de 124 hameaux et plusieurs 124 villages, autant pour moi, et plusieurs hameaux, la commune compte plusieurs communautés, à savoir des Sonray, des Touareg, des Peul, des Gourmanché et des Haoussa. Leurs principales activités sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais qui sont les premiers occupants et fondateurs de Dargol? Pourquoi le nom Dargol? Pour cela, là, écoutons Abdoulaye Bourema, notable de la chefferie, interrogé par notre envoyé spécial Omar Hama.
Le territoire de Dargol était occupé par les Gourmanché. Leur chef s'appelait Dari. Mais le soray fondateur de Dargol est Tafarma Amaru. Tafarma Amaru est un descendant d'Askia Mohamed. Pour s'aligner, on dit Tafarma Amaru, Amaru Morbani, Morbani Soumaïla, Soumaïla Daouda, Daouda Askia. Donc à leur arrivée, ils ont combattu et chassé les Gourmanché. Mais leur roi Dari a refusé de quitter. Il est resté à Dargol. Il a même son domaine ici, dans la périphérie de la ville. Et c'est là l'origine du nom de la ville, Darigola. Dari Nangorado, ce qui veut dire en germain, là où Dari a vécu. Et le chef qui a fondé le canton, je le disais, est Tafarma Amaru. Le Tafarma Amaru, à ce jour, il y a eu 21 chefs de canton, y compris l'actuel Ali Obure Mahama Gaïdou. Il est descendant de Moussi Gaïdou, un des chefs de canton qui a été très populaire dans la zone.
Moussi Gaïdou a régné combien
d'années?
Moussi Gaïdou a régné pendant 28 ans. Il est décédé en 1944. Après Moussi Gaïdou, c'est fils Idriss Sorka. Après Idriss Sorka, c'est Koudaouda. Puis Aouta Soumaïla. Après Aouta Soumaïla, Bouré Mahamma, qui est notre père, que son fils Aliou Bouré Mahamma a succédé.
Quelles sont les principales activités des populations du canton du Dargol?
Les activités principales des habitants du canton de Dargol sont l'agriculture et l'élevage qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Il y a aussi la pêche, parce que le canton de Dargol est très vaste avec 124 villages administratifs répartis en deux communes. La commune de Gotey qui compte 56 villages et la commune de Dargol, 68 villages.
Le canton de Dargol est composé de combien d'ethnies?
Nous avons d'abord les Sonray. Nous avons aussi des Touareg, des Peul, quelques Gourmanché et Haoussa, voire même des Yoruba ici à Dargol. Mais ceux qui sont autochtones, je dirais même originaires de Dargol, sont les Sonray, les Touareg et les Peul.
S'achève ce journal. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec nos journaux en langue nationale. À partir de 18h15, Mokhtar Hamadou et ses invités décryptent l'actualité de la semaine qui s'achève. Et n'oubliez pas, réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce à RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio
Kalangu. Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de tous à la FADA.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.